Radio Foot International.
Olivier Prom.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Radio Foot International, émission mise sur orbite depuis le début de la semaine par Hugo Moissonnier. On va donc essayer de rester perché jusqu'à lundi et le retour d'Annie. Oui, oui, c'est promis, la dame revient. Bref, pour commencer cette émission du jeudi, la honte pure et simple, la disgrâce totale pour des supporters à bannir, ces crétins de Nice qui hier soir ont chanté ça. Cette chanson de la honte qui fait référence à Emiliano Sala, l'attaquant argentin de Nantes, mort dans un accident d'avion au-dessus de la Manche en janvier 2019. Les supporters nantais, qui ont décidément tant de leçons à donner à leurs pseudo-homologues niçois, chantent l'original à chaque match, à la 9e minute, 9 comme le numéro que portait Sala sous le maillot canari. Samedi au Stade de France, elle a fait vibrer l'enceinte lors de la finale de la Coupe, remportée logiquement par les Nantais face aux Niçois. Certains de ces Niçois ne s'en sont apparemment pas remis. Alors ils ont écrit et chanté hier face à Saint-Etienne une version abjecte, à vomir, qui nous a, je crois, tous révoltés. C'est un Argentin qui nage pas bien, Emiliano sous l'eau. C'est ce qu'on vient d'essayer d'entendre. Je préfère m'arrêter là. Comment justement peut-on en arriver là, terme d'une saison de Ligue 1 globalement catastrophique en tribune, la pire sans doute en Europe? Ce sera bien sûr l'ouverture de ce Radio Foot aujourd'hui. Bonjour Chérif Guémour.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Choqué?
Oui, c'est très 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 mauvais goût, mais on va en parler, on va en parler.
Bien sûr. Heureusement, nous reviendrons aussi au terrain, le vrai, l'essence même de ce qui est ce formidable sport. Le jeu en Angleterre, notamment la Première Ligue, est joué. En tout cas, c'est plus que probable depuis ce week-end et les deux points perdus par Liverpool dans le mano à mano avec City. Confirmation avec les résultats de la semaine. Guardiola va sans doute sauver sa saison. Liverpool se contenter d'un potentiel triplé, mais plus d'histoire de quadruplé. D'accord avec ça, cher Salim Bomgali, bonjour.
Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Rien n'est fait en football, rien.
Oui, ça c'est votre business hein, de maintenir un peu de suspense.
Évidemment.
Nous évoquerons aussi la Coupe d'Italie, revenue de haute lutte hier à l'Inter face à une Juve qui ne remportera donc aucun titre cette saison, une première depuis 11 ans. Tous ces noms de clubs cités depuis quelques lignes nous amèneront en fin d'émission, forcément, à évoquer la réforme votée de la Ligue des Champions. Horizon 2024-25, 36 clubs et non plus 32, un mini championnat, des tonnes de matchs en plus et donc de belles affiches, nous promettons, pas mal de pognon aussi, d'argent. On attend confirmation et pour cela nous convoquons l'homme qui murmure à l'oreille des dirigeants de la planète foot, monsieur Étienne Moati. Vous étiez à Vienne et vous savez tout.
Oui, j'étais à Vienne, j'ai parlé avec Alexander Seferin et il promet que c'est pas une super ligue qui dit pas son nom.
Ouais. Et Étienne, il peut parler de pognon
ouais,
aussi. Hein.
Donc il y a débat. Allez, Radio Foot, on ne prend pas le temps de niaiser. Hein. Comme d'habitude, Pierre Guérin a supervisé, Alice Ménard met en onde. On y va. Oh les cœurs, rendons à Emiliano Sala son honneur, celui qu'il mérite et sur lequel ces abrutis d'ultra de la populaire sud du stade de Nice ont marché, craché, honteusement hier soir lors du match face à Saint-Etienne. L'affaire logiquement fait grand bruit. Évidemment messieurs, logiquement l'affaire fait grand bruit.
Mais évidemment, c'est une émotion qui dépasse très largement le cadre du football. Si vous écoutez un petit peu aujourd'hui ce qui se dit un peu partout, même les gens qui ne s'intéressent pas du tout au football sont choqués à juste titre par cette affaire. C'est évidemment choquant donc, de pouvoir essayer de plaisanter comme ça avec un mort. Mais surtout, ce qui s'était passé avec Emiliano Sala, c'était quelque chose de formidable parce que ça ressemblait à ce qu'on fait dans le football anglais, c'est-à-dire une capacité à faire un hommage remarquable sur la durée, une vraie culture football de ce qui se fait aujourd'hui à Nantes autour d'Emiliano Sala. Donc essayer de salir ça encore plus, c'est absolument lamentable.
Salim ?
Pas plus à ajouter malheureusement sur cette horreur qui s'est passée hier. Franchement, d'entendre ça sur le coup, au début en plus je regardais le match. Je me suis dit, attends, on a entendu quoi là? Sur le coup, on ne comprend pas en fait, oui. Sur le coup. Et c'est bien après quand on entend aussi les réactions de Christophe Galtier et d'autres. Ah, pour ça, ils ont vraiment dit ça en fait. Et il y a tout en fait qui vient. Il y a même, qu'on soit supporter nantais ou pas d'ailleurs, vous le disiez très bien Étienne, tout le monde a été pris vraiment par ce qui s'est passé il y a quelques années. Et vraiment, d'entendre ça hier, tu te dis, mais ces mecs sont... Vous avez utilisé le terme de crétin. On peut utiliser des termes bien plus violents et bien plus vulgaires.
Oui, je me suis mesuré, croyez-moi, depuis le début de la journée.
Même si, évidemment, ce n'est pas toute une tribune, mais c'est une bonne partie quand même, comme Christophe Galtier a pu le dire. Mais c'est incroyable ce qui s'est passé.
Alors, avant de vous demander votre avis à nouveau, shérif, on va écouter Christophe Galtier. Les gens dont on parle n'en sont pas à leur coup d'essai. Hein. On a observé leur attitude. Les observer, c'est consternant, rien que de l'abject. Alors, écoutons Christophe Galtier en conférence de presse d'après match. Comme nous, l'éducateur qu'il est choqué, l'homme est touché, et les mots sont justes et sans ambiguïté.
J'ai pas d'adjectif pour définir ce que j'ai entendu. Une des premières réactions dans le vestiaire, croyez-moi, c'était pas des chants, c'était pas des cris de joie, c'était pas un soulagement. C'est ce que les joueurs ont entendu. Je sais que le club est intervenu à travers un communiqué et au nom de mon vestiaire, de mon staff technique, de mon staff médical, de mes joueurs, on tient à présenter nos excuses à la famille d'Emiliano Sala, les excuses aussi au FC Nantes. On peut entendre beaucoup de choses dans un stade, mais souvent on dit ces derniers temps que finalement les tribunes, je parle de quelques personnes, mais des personnes qui ont quand même chanté assez fort, il y avait quelques personnes, mais il n'y en avait pas que trois. Il n'y en a pas que trois. Et s'ils ne sont pas contents, ils ont qu'à se présenter au camp d'entraînement. Je leur dirai la même chose. On dit que les tribunes sont les reflets de la société. Si c'est ça notre société, ben croyez-moi, on est dans la merde. On est vraiment dans la merde. On a chambré nos joueurs. Il y a eu des insultes aussi sur Madame Frappard. Jusqu'à preuve du contraire, elle ne nous a pas fait perdre la finale. Nous l'avons perdu la finale. Et je ne vois pas ce que vient de faire la mémoire de quelqu'un qui est décédé dans un accident tragique. Pour moi, c'est surréaliste. Et... J'ai pas de mots. Qu'ils restent chez eux. On peut pas entendre ça dans un stade. Qu'ils restent chez eux. Si c'est pour insulter des morts, qu'ils restent chez eux. Si c'est pour envoyer des bouteilles, qu'ils restent chez eux. On gagnera sans ces personnes-là.
Clair, net, précis, beaucoup d'émotions. C'est même courageux. Alors, votre avis, shérif ?
Mais... Je ne vais pas rajouter plus ou moins que ce qu'on dit Étienne, Salim ou même Christophe Galtier. C'est condamnable, c'est abject. Mais là, on est dans la condamnation morale par rapport à une certaine éthique, par rapport à certaines valeurs. L'étape d'après, c'est quoi ? Parce que je suppose qu'on va parler des
bien
possibles
sûr.
Sanctions. C'est autre chose. Là, on fait un constat, un jugement, on donne notre avis. Je crois qu'il est unanime, hein. Il n'y a pas grand-chose à rajouter de plus. Je crois que Christophe Galtier a tout dit. Hein,
c'est pour ça qu'on voulait le faire entendre in extenso. Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui a... Voilà, quand il faut parler, il parle.
Mais c'est vrai qu'il a été d'une clarté, vraiment. Et surtout sa position, même d'ailleurs quand il évoque les bouteilles, ça nous rappelle évidemment le Nice-Marseille, lorsqu'il y avait ses jets envers
les paillettes,
notamment en début de saison. Et rappelez-vous à l'époque où le président River n'avait pas été si franc au tout début hein, par rapport à cette affaire, en essayant un peu de défendre ou de calmer les choses, arrondir les angles. Là où Galtier, il est très clair aussi dans ses propos hier. Hein. Donc c'est fort de dire ça dans ce contexte. En tout cas.
Je rappelle juste les paroles... Les vraies paroles de la chanson, c'est un Argentin qui ne lâche rien, Emiliano Sala, Emiliano Sala. Hier, donc, c'est devenu, c'est un Argentin qui ne nage pas bien, Emiliano sous l'eau, Emiliano sous l'eau. De toute façon, ça a été la totale hier, 8 minutes sans encouragement pour commencer. Un vrai truc de mauvais perdant, de gosse, quoi. Ils ne pardonnent pas d'avoir perdu la finale de Coupe de France, alors qu'ils n'ont à s'en prendre qu'à eux-mêmes, finalement. Pas les supporters, mais les joueurs. Insulter Stéphanie Frappard, parce qu'il la juge responsable d'avoir accordé un pénalty lors de cette finale. Et vous faisiez référence aux incidents d'août dernier où Nice avait écopé de 2 points dont un ferme, 8 clos total de 3 matchs. Aujourd'hui, il y a eu un communiqué de ses supporters. Ils plaident le second degré au secours. Ils plaident le second degré. On a affaire à des crétins. Il faut être, pardonnez-moi, mais complètement abruti pour croire qu'un second degré comme celui-là puisse passer. Il n'y a pas de regret. Ils présentent, oui, des condoléances à la famille d'Emiliano Sala. C'est la moindre des choses. Une chanson comme celle-là, Étienne, elle a été écrite, répétée pour être chantée de la façon dont elle a été chantée hier.
Oui, et comme l'a dit Christophe Galtier, pas juste par 2 ou 3 supporters niçois, mais par beaucoup plus de monde que ça. Il y a un vrai problème avec les ultras à Nice. Il y a un vrai problème avec les ultras dans beaucoup de clubs français.
C'est une saison catastrophique de ce point de vue-là.
C'est la pire saison qu'on ait connue. Ouais, on d'accord. est devenu aujourd'hui le pire club en Europe de ce point de vue-là. Qui aurait pu l'imaginer il y a quelques années où le football français était moqué pour avoir finalement assez peu de supporters, pas de culture foot, pas d'enthousiasme débordant, etc.
Aujourd'hui, quelques jours après une finale de Coupe de France, où pour le coup, il y avait une ambiance de déglingo au Stade de France, grâce aux Nantais. Mais enfin, bon, voilà.
Absolument. Il peut y avoir des supporters qui font bien leur travail, entre guillemets. Mais il faut évidemment que le football français, il faut que les autorités publiques se saisissent de cela, parce qu'on a le sentiment qu'à chaque week-end, il peut y avoir des incidents, et des incidents de plus en plus graves, ou de plus en plus sales, ou de plus en plus condamnables dans les stades français.
Il faut sanctionner.
Oui, en fait,
tout le monde appelle aux sanctions. Antoine Comboiré, Christian Estrosi, le maire de Nice, on doit pouvoir le faire, donc il faut sanctionner.
Et en fait, hier, j'ai pensé à un truc. Moi, ça m'a rappelé à l'époque, on s'en souvient tous, au PSG, lorsque Robin Lepreau était président du Paris Saint-Germain, s'était engagé dans une démarche assez violente, en tout cas à l'époque, pour les supporters, j'utilise le terme, de nettoyer un peu les tribunes à l'époque, en sortant ceux qui faisaient mal les choses, entre guillemets, certains ultras du Cop Boulogne, du Cop Auteuil, peu importe. Et je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas ça à faire, clairement, dans certains stades? Mais vraiment de manière très violente, avec Nice, mais avec d'autres stades, peu importe, hein, parce que les ultras, ce sont des fêlés, dans d'autres stades aussi, où il faut aller loin, quoi. On ne peut plus les laisser comme ça. Et je me dis surtout, on a des stades apparemment modernes. En Angleterre, on les a modernes, et en Angleterre, on les filme, et ils sont sortis dès qu'il y a quelque chose
d'assez
grave.
Mais en France aussi, on les filme. La vidéosurveillance est obligatoire dans les stades de Ligue 1, donc tous les clubs en ont. Donc on est en mesure de réagir. Mais il faut réagir beaucoup plus vigoureusement. L'Angleterre a connu des problèmes de supporters bien plus importants que les problèmes qu'on peut connaître aujourd'hui en Ligue 1. Ils les ont réglés. Il n'y a pas d'autre alternative que la répression, quand on voit ce qui se passe dans certaines tribunes, et encore hier soir. La répression, on peut le regretter, mais avec la répression qui peut fonctionner.
C'est triste, mais ouais.
Shérif, vous vouliez dire quelque
chose? Non, mais quand on parle de sanctions, c'est sur quelle base légale? Parce que là, c'est pas des actes, c'est pas des appels au racisme.
T'as raison.
Ah non, mais c'est important. Sur quelle base légale? Tu parlais de la répression qu'on a exercée en Angleterre, il y a texte de loi.
Ça a été voté.
On n'est pas dans l'insulte, on n'est pas dans l'incitation à la haine raciale, on n'est pas dans le truc qui rentre dans le cadre de la loi. Donc, sur quoi on se base? Sur la charte des clubs qu'ils imposent aux supporters aujourd'hui? Éventuellement, oui, c'est possible.
Mais bien sûr, les clubs sont en mesure d'identifier ces supporters qui ne devraient plus vouloir dans leur propre stade et les essayer de discuter avec des supporters qui, de toute façon, n'écoutent rien. Quand on voit aussi ce qui se passe, par exemple, à Saint-Étienne, vous avez des supporters qui sont extrêmement joyeux parfois, mais qui envoient des dizaines, des centaines de fumigènes sur la pelouse, sachant très bien que le club va être condamné, que le stade va être mis à huis clos, et ils continuent. Donc, si vous n'avez pas une politique de répression extrêmement ferme, ça ne fonctionnera jamais.
Je te rappelle, Étienne, que le supporter qui avait balancé une bouteille sur Payet à Jean, c'était pas un ultra,
Juste un abruti, finalement.
Un abruti, mais c'est pas un ultra, c'est tout.
Quand Christophe Galtier dit c'est une frappe forte, si les tribunes sont le reflet d'une société, de la nôtre, on est vraiment dans la merde.
Oui, il a raison. Il y a un climat d'agressivité, de violence, de toute façon qu'on a retrouvé dans la campagne politique des présidentielles. Mais faut pas se masquer, hein, il y a une violence sociale, il y a des revendications, des débordements qui peuvent être inadmissibles, mais si Christophe Galtier le dit, là-dessus, il a raison. Et c'est pas que dans le foot. Alors si c'est le reflet, en effet, je rappelle que lors de la dernière campagne présidentielle, il y a eu des bus caillassés, des permanences de candidats. C'est la réalité de notre société aujourd'hui aussi. Il n'a pas tort là-dessus.
Et quand tu évoques l'aspect politique, récemment, on a vu un groupe de supporters de Reims, je crois, qui était en déplacement et qui avait une croix celtique dans son cop. Tu dis, quand on voit l'extrême droite et le niveau de l'extrême droite ces dernières semaines, on se dit que la voix, la parole se libère, entre guillemets.
Il n'y a pas que
l'extrême droite, bien sûr.
Non, il y a l'extrême gauche aussi. En ce qui concerne Christian Estrosi, il projette, c'est ce qu'il a dit chez nos confrères d'RMC il y a quelques instants, de projeter une photo d'Emiliano Salas sur les écrans du stade au prochain match et d'avoir une minute d'applaudissement. La commission de discipline, pour info, se réunira le 18 mai, elle a été saisie.
Ouais, il peut y avoir une contre-réaction dans les stades. On a vu que le club de Clermont ce week-end ou le dernier match à domicile, à la 9e minute, comme il est d'usage, à Nantes. Je pense qu'ils entameront des chants ou une minute d'applaudissement, je crois. Donc, c'est une piste. Mais on n'est pas dans les sanctions, là, on est dans la réaction.
On rappelle que c'était la première saison post-Covid. Hein. Donc, les gens ne sont pas allés dans les stades pendant 2 ans, ils reviennent, ils foutent le boxon.
C'est pas faux.
Et on rappelle que notre émotion sur cet acte précis, bah, elle est universelle. Ça peut se passer et ça se passe partout dans le monde. Et
non, mais vous
on aurait la même réaction. Évidemment, tout ça est une histoire d'abrutis. Et le foot, ça n'est pas ça.
Je n'ai pas de réaction, mais ça se trouve, ça c'est mal passé en Argentine. Il faut réfléchir aussi à ça. Quoi.
Alors, pour info, le résultat des deux matchs en retard de cette 36e journée de Ligue 1, un championnat sur lequel nous reviendrons demain dans le Café des Sports. Nice, mené 2-0, a finalement battu Saint-Etienne 4-2 et s'est relancé dans la course au podium. Et à la Ligue des Champions, les Niçois sont 4e à 2 longueurs de Monaco. Ils sont repassés devant Rennes, qui a perdu gros à Nantes, 2-1 et sans doute sa chance de podium. Saint-Etienne battu donc à Nice, reste 18e et barragiste et a de grandes chances de le rester avec 3 points de retard sur Lorient et plus que 2 matchs à jouer.
De Bruyne helps it on its way. Bernardo Silva plays it through. De Bruyne has continued and City score in the 7th minute and this wonderful scoring run continues for De Bruyne. That's a lovely ball. De Bruyne, Sterling's in. José Sarr and Stan De Bruyne again. Stop it, Kevin! Stop it! De Bruyne has got it and Foden. And De Bruyne! But he gets his first with his right boot. 3 with his left. 4 now for the Blues and the game surely won.
C'est marrant, Salim Bongali, vous étiez, je peux le dire pour nos auditeurs, en train de nous expliquer qu'il avait marqué Kevin De Bruyne 3 de ses 4 buts de la jambe gauche. Et c'est exactement ce que vient de dire le commentateur, notre confrère anglais, la Première Ligue, donc le foot anglais. Toujours plus emballant, mon cher Salim, n'est-ce pas? D'abord, des nouvelles de West Ham rapidement?
Mais oui, et puis West Ham qui évolue dimanche, on le rappelle, face à Manchester City, et donc West Ham qui a peut-être relancé le championnat.
Et Kevin De Bruyne qui disait, j'aurais
tout
pu
est dans le peut-être.
Ce sera peut-être. Pour dimanche, les 5 buts de Kevin De Bruyne. La lutte pour le titre est-elle jouée, Salim? On rappelle, cette victoire, c'est 4 buts de Kevin De Bruyne hier face à Wolverhampton, victoire 5-1.
On le rappelle, là, au moment où nous parlons, c'est le même nombre de matchs entre Liverpool et City. Il leur reste donc à chacun 2 matchs. City, au moment où nous parlons, a 3 points d'avance sur Liverpool. Et en plus, City a 7 buts d'avance sur Liverpool.
Oui.
Donc c'est quasiment 4 points, quoi, en quelque sorte. Donc oui, j'ai envie de dire que City a fait un très grand pas vers le titre. Les 2 derniers matchs de City, c'est un déplacement à West Ham, la réception d'Aston Villa. Est-ce que Gerrard va peut-être donner le titre à Liverpool, en quelque sorte, lui qui coach Aston Villa? C'est pas forcément certain. Là où Liverpool...
C'est pas ce qu'on a vu dans le match de mardi, hein, Aston Villa-Liverpool.
Non, Gerrard a joué le truc à fond.
Ouais, ça joue à fond, hein.
Avec une victoire 2-1 de Liverpool,
Gerrard... Très compliqué. On sent quand même que Liverpool, ça coince un peu. Il y a quand même un objectif Ligue des Champions qui doit quand même bien... Et puis il y a la Cup, ça
oui,
dit, on le rappelle.
J'ai envie de dire, Liverpool a tous les objectifs pour le coup, mais on voit surtout que physiquement ça coince un poil. Ben, on l'a vu face à Villa où Fabinho est sorti d'ailleurs très tôt dans la rencontre. Il est d'ailleurs forfait pour la finale de Cup ce week-end. À City, alors City ça coince derrière, on en reparlera parce qu'il y a encore des blessures derrière, mais quand vous avez un De Bruyne qui est en train de revenir pleinement en forme jusqu'en il faut en quelque sorte dans le Money Time, on se dit honnêtement que ça paraît quand même compliqué pour Liverpool.
Alors on va revenir, on va demander leur avis bien sûr à Étienne et à Sheriff, mais on va écouter Kevin De Bruyne, tiens, pourquoi pas.
Je pense qu'on essaye de gagner les matchs. Je pense qu'on a bien commencé et marqué les 3 buts. Je pense qu'on a bien joué. On voit que tout le monde est un peu fatigué, mais maintenant ces 2 matchs, on fait tout pour être prêt. Bien sûr, quand tu marques 4 buts, il va dire que c'est un des meilleurs, mais pour moi... Il y a des matchs que tu marques pas, tu donnes pas d'assist, mais tu joues bien. J'ai eu des occasions pour marquer et ouais, j'ai trouvé 4 fois. Normalement, le 5e, ça doit être dedans. Mais à la fin du compte, c'était une bonne match de nous et je suis content de ça. J'ai marqué 3 fois et ça se passe pas souvent. Je veux faire tout pour être champion et maintenant, je pense à dimanche.
Il est assez humble hein, sur ce coup-là. Bon, on rappelle qu'il a effectivement frappé le poteau. On rappelle aussi que City a marqué. Alors, City qui pourrait avoir la pression. Il n'y a plus qu'un titre hein, à aller chercher. Hein. Ils sont éliminés partout. 5-0 dimanche face à Newcastle. 5-1 hier face aux Wolves de Wolverhampton. Etienne, ça semble carré quand même hein, chez City. On est bien en place.
Oui, moi je trouve qu'ils ont beaucoup de mérite parce que l'élimination face au Real en Ligue des Champions, elle était tellement cruelle, tellement douloureuse. Je veux dire, pour un club qui cherche ce titre-là avant tout, son entraîneur encore plus, réussir à se remobiliser aussi facilement avec autant de réussite dans les matchs qu'ils disputent depuis leur élimination et avec un adversaire comme Liverpool qui vous mord les chevilles comme ça, donc je trouve que c'est vraiment beaucoup de mérite, donc je crois en effet pas une seule seconde qu'ils puissent caler maintenant l'écart aujourd'hui est fait, et beaucoup de mérite quand même pour cette équipe-là, parce que quand on voit la fin de saison du Paris Saint-Germain après leur élimination face au Real, bah, on dirait que c'est pas exactement la même chose.
Ouais, bah, enfin, globalement quand même, quand on a vu les quarts de finale et les demi-finales de la Ligue des Champions, on s'est quand même tous demandé ce que le PSG aurait pu faire là, c'est-à-dire rien. Shérif.
Non, je pense qu'aussi c'est bien parti pour Manchester City. Quand on connaît un peu l'histoire du championnat d'Angleterre, il y a eu des finishes où il y a eu des retournements de situation. Je pense, c'était quoi ? C'était Arsenal-Liverpool en 89-90, il me semble.
Au dernier match.
Dernier match.
Dernier match où Arsenal obtient le titre sur la pelouse de Liverpool, d'ailleurs.
Merci, Salim. Et bon, après, il y a 10 ans, c'était quoi ? C'était City aussi.
City,
avec
oui, il y a 3 ans, c'est ça avec... Ce vendredi, ça fera 10 ans jour pour jour que City avait obtenu à la dernière seconde ce fameux titre face à QPR.
Ouais, ouais. Donc, au niveau de la, comment dire, du prestige et de la promotion de la Première Ligue, je sais qu'on en joue. Bon, vous avez non, qu'à voir, le, bah oui, évidemment, l'habillage.
Ils se font une telle autopromo, là.
Oui, c'est bah, évidemment. Mais c'est.
Il boit du Tilès, Salim Bobo.
C'est de bonne guerre, mais je pense. Je pense que, comme l'a dit Étienne, si City aurait pu ou aurait dû s'écrouler, il se serait écroulé déjà les deux matchs qui ont suivi le Real Madrid. Finalement, non, ils sont repartis de plus belle. Là, maintenant, ils ont 3,5 points, c'est-à-dire les 3 points d'avance plus la différence de but favorable. Et puis, voilà. Mais bon, on sait que Liverpool va jouer sa chance à fond. Donc, voilà, on est comme tout le monde. Juste tant que ça se dénoue.
Vous me connaissez taquin, évidemment, avec West Ham. Juste, West Ham City, il y a quand même un mini enjeu pour West Ham qui veut encore accrocher les places européennes et notamment l'Europa League, puisque ouais. West Ham peut encore passer devant Manchester United. West Ham a 3 points de retard sur United, mais un match en moins par rapport à United, donc peut potentiellement passer devant les Red Devils, envoyer United en Conference League et donc West Ham en Europa League. Et puis là, c'est plus un élément symbolique pour West Ham. Mark Noble, qui est un joueur très connu là-bas, ça serait son dernier match à domicile avant sa retraite. Donc, il n'a joué que dans un seul club à West Ham. Donc, on sait qu'à West Ham, ils veulent lui offrir quelque chose d'important, de très grand. C'est le moment ou jamais, j'ai envie de dire.
Est-ce que Pep Guardiola sauve sa saison avec ce titre ?
Ben, pour le coup, on évoquera dans un instant l'avocat de la Juve qui n'a pas remporté de titre, une première depuis tant d'années. La Pep Guardiola, alors lui, son objectif, et Étienne l'a très bien dit, c'était la Ligue des Champions d'abord, malgré tout. Et ben cette élimination face au Real, ça fait mal, mais au moins de remporter le titre, surtout devant ce Liverpool-là qui peut-être va remporter 3 trophées, ben quand même, vous montrez qu'on a tenu sur 38 matchs, on a réussi à finir devant ce Liverpool-là.
Étienne.
Oui, c'est exactement ça. S'il n'y avait pas Liverpool en train de faire un mano à mano, comme ils le font régulièrement sur ces dernières saisons avec eux, bah, on pourrait dire que bon, c'était le cas du Paris Saint-Germain qui est champion de France avec 72 points d'avance. Bon, bah, finalement, ça sauve la saison de personne et surtout pas celle de Pochettino. En Angleterre, il y a beaucoup plus d'adversité. Il y a ce Liverpool-là qui est une machine de guerre. Donc, forcément,
Chelsea est une machine de guerre aussi.
Aussi, bien sûr.
Oui, mais forcément, quand vous êtes devant, bah, vous avez malgré tout réussi la saison.
Alors parlons un peu de Liverpool, pas de quadruplé, a priori, pour les Reds. C'est pas si grave, non ? Ils ont déjà gagné la Coupe de la Ligue.
Il ne faudrait pas que ça se termine par une faillite.
Ouais, voilà. Ils ont déjà gagné la Coupe de la Ligue, un petit trophée. Bon, ils sont en finale de Cup, c'est samedi, 15h45, temps universel, face à Chelsea. Mm-hmm. Pas simple.
Ah, non.
Et que dire de cette finale de Ligue des Champions le 28 mai, que vous pourrez suivre hein, sur RFI, bien sûr, au Stade de France, face au Real. Bon, voilà, il y a du gros encore à venir. Il faut se dire peut-être que le titre allait...
Ouais, et j'insiste, du gros avec un effectif vraiment, contre Villa, on l'a senti, hein, qui était un poil fatigué. Fabinho, on a eu la preuve avec sa petite blessure musculaire. On sent qu'à chaque match, il y a des joueurs qui sont à la limite, que ce soit au milieu ou même défensivement.
D'ailleurs, comment ça fait tourner, hein, Liverpool ?
Ça tourne pas tant que ça.
Non, mais évidemment.
Est-ce qu'un club peut se dire, allez, c'est plié en championnat ? Vraiment,
je
préserve.
Encore une fois, les auditeurs, nous tous, on suit le foot depuis tellement longtemps. Oui, sur le papier, City a l'air devant. Regardez ce qu'on a vu en Ligue des Champions encore récemment. Des choses tellement invraisemblables. C'est que West Ham, je vous l'accorde. C'est que Villa sur dernier match. Mais ce serait tellement symbolique presque de voir Gerrard offrir le titre à Liverpool. Donc, il y a tant d'histoires. Non. Et d'un côté, City ne peut pas se dire « on a le titre » et de l'autre, club se dire « non, c'est bon, on lâche le titre, on met tout sur la Ligue des Champions. » Impossible.
Surtout que ça va se jouer à distance puisque ce week-end, Liverpool joue la finale de la Cup, donc ne jouera pas en championnat.
Ils joueront mardi, deux jours après, pour le coup, derrière Manchester City. Donc, symboliquement, City, dimanche, peut avoir 6 points d'avance sur Liverpool s'il gagne à West Ham.
Psychologiquement, ça compte.
Oui, ça oui.
Ça compte psychologiquement parce qu'après, ça fait vraiment un écart quasiment insurmontable à rattraper. Mais...
de toute façon, Liverpool n'a pas beaucoup l'habitude donc d'abandonner des trophées, de faire tourner beaucoup un football très énergivore, mais qui finalement, quand ils l'abandonnent, ils ne savent plus quoi faire non plus. Donc, moi je crois qu'ils vont continuer à jouer à fond.
La seule fois où ils l'ont fait, c'était il y a 2 ans, juste avant la période Covid, lorsqu'ils avaient disputé la Coupe du Monde des clubs. Ils avaient disputé, alors ça devait être un mardi, une demi-finale, et le mercredi, donc un jour après, 24 heures après, il y avait un 8e de finale de Coupe de la Ligue. En 24 heures, il y avait 2 matchs. Donc, ils avaient envoyé l'équipe C pour le coup en Coupe de la Ligue, et là, ils avaient abandonné. Mais effectivement, ce n'est pas l'idée de club d'abandonner ces compétitions. Non.
Bon, alors, le championnat, le titre, presque plié.
On ne sait jamais.
Pour les places en Ligue des Champions, 3e, 4e, c'est plié aussi.
Plié, si
pour
Arsenal.
Pour l'instant, on a Chelsea. On rappelle quand même que les deux premiers, le 3e Chelsea est à 16 points de Liverpool, 19 de Manchester City. C'est pour faire écho à ce que vous disiez tout à l'heure, Étienne. Chelsea, donc, Chelsea sera en Ligue des Champions. Il y a 8 points d'avance. Et Arsenal a 4 points d'avance sur Tottenham.
Voilà, il y a effectivement.
C'est
vrai que ce jeudi soir, il y a le fameux Tottenham-Arsenal. Si Arsenal gagne, au moins tout est réglé pour les 4 premières places. Ouais. On saura qui sont les 4 premiers. Après, on ne connaîtra pas l'ordre. L'ordre, on ne connaîtra pas.
Ce qui est finalement, on s'y habitue, mais moi pas complètement, c'est l'absence de Manchester United. C'est-à-dire que chaque saison, quand même, elle est avec des recrutements XXL, avec des centaines de millions d'euros dépensés dans les mercatos. Comment ce club a pu en arriver là ? Et en recrutant en plus Ronaldo, là, franchement, si vous n'êtes pas dans les 4 premiers, ça va devenir quand même un accident industriel à Manchester.
Si, on s'y fait.
Et juste, pardonnez-moi, j'ai oublié d'évoquer à City quand même une image forte quand même. Hier, quand Kevin De Bruyne marque son 3e but, il le fait à la Haaland, avec ce petit geste, les deux mains qui sont comme
Haaland. Pour adouber l'arrivée.
C'est ça, vraiment comme pour fêter ce qu'Haaland sait faire.
En Bouddha.
Donc voilà, il visualise déjà et on l'imagine déjà dans cette attaque. Vous imaginez De Bruyne, Bernardo Silva, Foden qui doivent servir Erling Haaland, pourquoi pas.
Donc Mahrez enterré.
Ou Mahrez, pourquoi pas. Il y a tellement de choix de toute façon.
Bon, voilà pour la première ligue. On file en Italie.
Jouer la frappe.
On va pouvoir frapper directement.
Oh,
il est magnifique ce but. Dès la 7e minute de jeu, l'Inter sur ce premier éclair de Nicolò Barella mène déjà face à la Juventus. Vlahovic face à Handanovic. D'Ambrosio, du crochet. Oh, Handanovic, mauvaise chance. Ça va en bout. La Juventus qui a complètement renversé l'Inter en 2 minutes. Là, c'est une finale. Cette équipe de la Juve, 4-2 désormais pour l'Inter Milan. On ne voit pas comment la Juve peut revenir.
La Coppa Italia, freccia rossa, l'Inter.
L'Inter, après le titre dans le calcio l'an passé, la Supercoupe depuis. Cette fois, c'est la Coupe d'Italie qui a remporté l'Inter Milan hier soir. 4-2 après prolongation, vous l'avez compris. 3 trophées en un an quand la Juve, elle, devra s'en passer pour la première fois depuis 11 années. D'abord, parlons de cette Inter de Simone Inzaghi, qui est l'équipe du calcio depuis un an quand même, non ? Shérif ?
C'est une très très belle équipe. Ils ont largement gagné l'année dernière, on se rappelle, avec Lautaro et Lukaku. Lukaku, est-ce qu'il a fait le bon choix en allant à Chelsea ? La question reste ouverte.
Et on peut même la fermer, non?
Oui, pour le coup, vu ce qu'il fait, on peut dire non. Hein.
Merci les amis. Et non, bah, ils ont eu un passage à vide au cœur de l'hiver. Là. Ils n'ont pas gagné pendant 5 matchs, comme si on butait face à l'obstacle. Le Milan en a profité. Et, bah, là, ils sont à 2 points. Ils ont encore perdu le joker qu'ils avaient. C'était contre la Fiorentina, mm-hmm. Ils ont perdu. Mm-hmm. Donc voilà, sinon, c'est une très très belle équipe. Qui change pas en 3-5-2 et Simone fait du bon boulot.
Inzaghi, ouais.
Le titre, c'est mal engagé parce qu'il reste deux matchs à jouer, ils ont 2 points de retard. Mais le Milan ne perd plus et l'Inter ne perd plus, donc pareil, je pense qu'on va avoir un beau finish.
Mais c'est vrai que quand tu parles de Simone Inzaghi, lorsque Antonio Conte était à la tête de cette équipe et avait donc gagné le Scudetto, quand il en est parti, je me suis dit, moi, bah, comment Inzaghi va réussir à enchaîner, est-ce qu'il va réussir à garder le même style de jeu? Alors le style de jeu n'est
il
pas le même.
Il a tout gardé.
Mais... Ouais. Ouais, pour le coup, il y a quand même un peu plus de possession pour le coup, hein, par
Ouais, mais ça reste en 3-5-2.
Mais ça reste en
3-5-2. Le milieu n'a pas changé.
Mais pour le coup, c'est plus joueur. Et au final, tu réussis à gagner des titres. En tout cas, tu arrives à aller assez loin. Bah, donc en championnat, ils y croient encore. La Coupe d'Italie, on l'a vu. Donc pour le coup, Inzaghi, bravo à lui.
Mon cher Étienne, ce championnat italien qui renaît de ses cendres quand même, parce qu'on retrouve des équipes compétitives.
Ah oui.
Non, vous trouvez pas?
Ben non, pas
trop. Vous le trouvez
pas
compétitif? Ah, en Ligue des Champions, peut-être pas. Mais il y a un regain d'intérêt dans le simple fait que la Juve ne le domine plus, peut-être.
Oui, ouais, mais voilà. La Juve ne le domine plus. Est-ce que ça veut dire que ce sont les autres qui ont tellement, tellement amélioré leur jeu, ou c'est la Juventus qui s'est plutôt effondrée? J'opterais plutôt pour la deuxième solution. Non, on a cru au renouveau donc complet du calcio il y a 2, 3, 4 saisons, etc. Moi, je trouve que cette saison-là, franchement, je la suis évidemment parce qu'on me paye pas très cher pour ça, mais on me paye quand même pour le faire, donc je le fais. Mais c'est quand même pas le championnat qui attire en premier mon attention. C'est clubs.
Les stades sont à moitié vides. Hein,
ouais, qui dominent le championnat. Je trouve pas qu'ils aient toujours un jeu extrêmement spectaculaire. Je trouve pas que ce championnat soit pétillant non plus. Et je trouve qu'il glisse doucettement. En tout cas, il est aujourd'hui assez loin de la Première Ligue, de la Liga,
scandale,
même parfois de la Bundesliga.
Non, mais je vais aller dans ton sens, Étienne. Le scandale, c'est que par rapport à la réforme de la Ligue des Champions de 2016, on a attribué arbitrairement 4 clubs italiens à la Ligue des
Comme
Champions.
Comme l'Angleterre, l'Espagne et l'Allemagne, en les mettant au même niveau.
Espagne, Angleterre, ça peut se...
Oui,
moi,
non,
je suis contre,
non,
hein,
non,
c'est
parce
que c'est arbitraire. Mais dans le cadre de l'Italie, c'est proprement scandaleux.
Ouais,
les clubs italiens ont...
Je vais apporter une observation là-dessus. Ça a été fait à une époque où il y avait une vacance de pouvoir à l'UEFA.
Non, je suis d'accord.
Et l'administration de l'UEFA était dominée à ce moment-là par des Italiens et des Allemands qui ont réussi à imposer cette réforme-là.
On est d'accord. Et sinon, pour en revenir, je mettrai un bémol à ce que disait Étienne, c'est qu'on a quand même des entraîneurs intéressants. À Sassuolo, enfin, il est parti. Et Gasperini à l'Atalanta. Il ne faut pas oublier que lors du dernier Euro, l'Atalanta était l'équipe la mieux représentée à l'Euro. Donc, il y a encore des idées de bons techniciens italiens. Je rappelle qu'Ancelotti, il a été encore champion. Et Conte a plutôt pas mal repris Tottenham. Donc, au niveau des techniciens, ça se tient encore. La difficulté, c'est qu'ils ne forment plus assez de bons jeunes. Donc, on l'a vu avec l'équipe d'Italie. Même s'il y a des Barella, des Chiesa, c'est insuffisant. L'intensité du championnat italien, c'est pas moi qui le disais, c'est un grand ancien de l'Inter, j'ai oublié son nom. Il disait qu'elle n'est pas propre à pouvoir atteindre, à être compétitive en Ligue des Champions. Et malheureusement, on l'a vu aussi. À partir des huitièmes, il n'y a plus de club italien.
C'est ça.
Donc,
au Royaume des Aveugles, les Borgnes sont rois. L'Inter, une défaite en 14 matchs. C'est parce que parce que l'adversité n'est pas au niveau.
Encore une fois, l'intérêt dans votre question, l'Inter et l'AC Milan...
Il y a encore des bons matchs. Hein,
il y a une belle bagarre. Au moins, on a eu 9 titres de la Juve consécutifs.
Bien sûr, de voir l'AC Milan être dans cette zone aussi. L'AC Milan qui était souvent en retrait, même si l'année dernière, ils étaient qualifiés pour la Ligue des Champions, mais ils étaient loin quand même du titre.
Ça joue bien en plus, Milan.
Donc ça joue pas mal non plus. Après, effectivement...
Napoli, ça joue bien.
D'accord. Napoli, même la Lazio un ton en dessous, mais malgré tout, la Roma qui est quand même en finale de conférence League, donc ça veut dire quelque chose. Mais quand on fait un global, et malgré tout, qu'on le veuille ou pas, l'élément qui cadre tout, en tout cas qui recoupe tout, c'est la Ligue des Champions. Et quand on voit qu'en Ligue des Champions, les Inter se font sortir très vite, la Juve est loin et autres, on se dit que les Italiens, oui, ils sont très loin en finale au niveau européen.
Il y a la Roma qui est en finale
de Conference League.
On va écouter le héros du match d'hier et après on parlera de la Juve. Le héros du match d'hier, c'est Perisic, bien sûr, l'homme qui a marqué des 3e et 4e buts, même si le 3e, c'est sur un pénalty un peu controversé. Ça arrive aussi et de plus en plus souvent.
C'était un grand match, donc les supporters doivent être très heureux. Même mené 2-1, on a eu 10 minutes à un quart d'heure de flottement et on a essayé de revenir. Ces deux dernières saisons, on a franchi un palier supplémentaire et on joue vraiment en équipe. Pour gagner une coupe, c'est très important. Il va falloir garder cet état d'esprit jusqu'à la fin du championnat. En ce moment, on pratique un bon football et on se bat les uns pour les autres. Il y a une belle ambiance dans ce groupe.
I think that's the good spirit of this team.
Un petit mot, vous étiez autour de cette table, tous ou presque contents de l'entendre. C'est un joueur apprécié, c'est un joueur de grand talent, Ivan Perisic.
Passé par Sochaux. Après, il n'a pas forcément marqué l'histoire du FC Sochaux, mais c'est vrai que par la suite, on a vu sa carrière. Et au final,
d'ailleurs, Perisic,
on a l'impression d'ailleurs qu'en club, il y a des hauts et des bas. Hein. Parfois, en club, on ne le voit pas trop. En revanche, en sélection, c'est en sélection où il est toujours à un haut niveau. Pour le coup, on parle à juste titre d'un Modric, par exemple, en sélection, comme en club d'ailleurs. Mais Perisic, en sélection, il ne déçoit jamais.
Ça fait partie des meubles. Être titulaire là cette saison dans le milieu de l'Inter, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est il y a encore un peu de concurrence. Grand joueur.
Et la Juve alors, saison à oublier. Bon, la Juve sera quatrième du championnat vraisemblablement. Elle aura sauvé sa place en Ligue des Champions. Quel cataclysme s'il en avait été autrement. Mais quand même, première fois depuis 11 ans qu'il n'y aura pas de titre chez les Bianconeri.
Oui, et dans le même temps, Andrea Agnelli, le président de la Juve, il continue contre vents et marées à vouloir, avec le Barça et le Real, monter une Super Ligue européenne. Donc, il n'est pas capable d'être sur le podium du championnat d'Italie, mais il veut faire une Super Ligue européenne. Non, c'est un club qui, on a le sentiment qu'il n'y a plus d'envie dedans.
Ah,
c'est
oui,
quelque chose qui s'est éteint, que ce soit au niveau de la direction, des joueurs,
d'abord,
les entraîneurs maintenant se
Allegri
succèdent sans
perdu
réussir.
Son mojo.
C'est une équipe qui, dans le jeu, n'a jamais été très enthousiasmante, mais qui avait une force mentale absolument incroyable, qui en faisait vraiment une terreur en Europe. Aujourd'hui, ils ont perdu cette force mentale. Le jeu est toujours ennuyeux et on se demande ce qui reste finalement.
Chiellini, qui était l'un des... celui qui montrait en quelque sorte cette force mentale aussi, il ne le montre plus. D'ailleurs, il va partir de la Juve en fin de saison. Voilà, ça fait partie de ces éléments où on se dit que la page, en fait, doit être tournée, mais comment ils vont la tourner? On n'arrive pas à savoir au final.
C'est ce qui faisait la force de la Juve, c'est qu'ils anticipaient. Comme le Manchester United de Ferguson. Il y a eu une... pratiquement pendant 10 ans une continuité, c'est toutes les saisons ils ont gagné des titres parce qu'il y avait un sens de l'anticipation, le recrutement était plutôt avisé, c'est plus le cas depuis quelques saisons. Moi de toute façon à chaque fois que je vois la composition d'équipe, le système change, les joueurs changent. Je suis d'accord avec toi Étienne, je sens plus la force, l'envie, l'allant. Il y a un truc qui trompe pas, là je vais être mauvaise langue. Les arbitres sont un peu moins généreux avec la joue. Non, mais ça fait partie de... Au-delà de l'anecdote, ça a joué aussi. Et par contre, tu mets un petit bémol aussi, cette saison, ils ont perdu relativement tôt Chiesa, grand espoir du football italien, superbe attaquant.
Un peu plus qu'un espoir quand même aujourd'hui.
Oui, parce que je dis ça parce que il est jeune et il s'est révélé tardivement, mais ça a manqué, ça a pas mal manqué au niveau de l'attaque, la Juventus. Mais c'est sûr que...
C'est vrai qu'on nous a oublié de signaler quand on parle du championnat italien que l'Italie ne sera pas à la prochaine Coupe du Monde pour un champion d'Europe. Ça,
mais la Juventus, ce qu'il y a d'inquiétant pour le foot italien, et là on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la locomotive du football italien. Et si cette locomotive, on ne la voit plus en Ligue des Champions et elle disparaît carrément au niveau du championnat, parce que sauf recrutement extraordinaire que je ne vois pas arriver, en plus il y en a qui vont partir, hein. Dybala va partir... Et Chiellini, je pense, être à la retraite.
Pas la retraite, il quitte le club, juste 37 ans.
Ouais.
19 titres en 17 ans à la Juve. Hein. Ouais, 9 Scudetti, on dit ça comme ça. 5 coupes, 5 super coupes.
Oui, mais ce sont des vieilles recettes quand même, c'est ça aussi le sentiment que ça donne.
Aller rechercher Allegri.
La Juve, on a l'impression qu'ils ont considéré que ça a marché comme ça pendant une dizaine d'années, que ça pouvait encore marcher 10 ans comme ça. Non, aujourd'hui, il y a ceux qui dominent le football, c'est aussi ceux qui ont des idées, dans le jeu. Alors évidemment, ils ont des moyens, ils ont de l'argent, que ce soit à City avec Guardiola ou à Liverpool avec Klopp, mais il y a aussi des idées dans le jeu, il y a aussi une politique sportive qui est cohérente, et ça, la Juve, on l'a plus.
Etienne, on est parti chercher Allegri, qui avait déjà fait largement son temps, on est encore allé le rechercher, le retourner, il a plus d'idées, il a plus
de jeu.
On tourne en rond.
On tourne en rond, et c'est vrai que cette impression qu'on a eue, ce frémissement de se dire, tiens, les Italiens reviennent, je me suis peut-être un peu emballé tout à l'heure, mais oui, les résultats à l'international montrent bien qu'on n'en est pas encore là et que ce titre de champion d'Europe était presque miraculeux.
C'est ça, parce qu'on a peut-être eu cette impression, parce qu'il y a eu la victoire à l'Euro tout de même.
Une belle équipe quand même.
Mais, bien sûr, mais il y avait justement.
C'est les deux nuls contre la Suisse.
Enfin, on a été champion du monde en 98, on n'avait pas un grand championnat non plus. Les joueurs peuvent faire la différence à la place du championnat.
On peut supposer, en tout cas, on peut se dire, ça peut être le démarrage, ou en tout cas le début de quelque chose. Encore une fois, quand vous voyez le cas Ligue des Champions, vous dites non, ça a été vraiment un épiphénomène avec en plus l'élimination Coupe du Monde.
C'est plus profond au niveau de la politique des stades. Moi, chaque fois que je regarde des matchs,
ils ont 30 ans ces stades, ils étaient faits pour la Coupe du Monde 90.
Je regarde, l'Inter, je crois, qui allait jouer à Empoli, les deux tiers des tribunes sont vides. Oui. Les stades sont souvent vides, ils sont dangereux, ils sont vétustes. Au niveau de la gouvernance des clubs, avant, on avait ce qu'on appelait les condottieri, des grands présidents. C'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, c'est des fonds de pension hongkongais, asiatiques. Ça vient un peu de partout.
Il y a quelque chose qui avec la
Il y a quelque chose qui s'est perdu en route. Et surtout, au niveau de la formation, alors c'est peut-être lié à la démographie qui se casse la figure en Italie. Il n'y a plus de bambini qui jouent en bas des immeubles. Mais ils le disent, ils ont un problème de jeunesse, de renouvellement des cadres, comme on dit. Qu'est-ce qu'on est sombre.
Eh bien justement, puisqu'on est sombre, et si on parlait football, circus, brosouf, pognon, thunes, blé, caillasse, enfin oseille à gogo.
Ah, le moment Étienne Moati.
Et si finalement la meilleure chose à attendre de cette réforme de la Ligue des Champions, dont on va parler pour clore cette émission, c'était la fin, le grand remplacement de cet hymne aussi pompeux qu'entêtant. Hein, finalement, vous avez des infos là-dessus, Étienne ?
J'ai pas le sentiment.
Est-ce qu'on envisage de changer ?
Non, les joueurs, pas ça, Étienne. Les joueurs,
j'ai pas le sentiment qu'il soit question de changer d'hymne. Je pense que, contrairement à ce que vous dites, il fonctionne très bien. Ouais. Il est terriblement identifié et que les gens l'aiment plutôt bien.
Les joueurs l'adorent.
Les joueurs l'adorent.
Je vous le promets. Le fredonne entre eux en fin de saison.
Je n'aurais jamais pu être joueur et je ne le serai jamais.
Je suis pas fan, mais.
Rassurez-moi, Olivier, vous aimez bien cette musique quand même.
Absolument pas.
Ça fait deux.
Ah oui, vraiment, là, je le revendique.
Mais au moins, quand on l'entend, on sait où on est. Quoi.
Oui, voilà, c'est vrai. Voilà. Allez, avant d'en parler, on écoute le taulier, Alexander Seferin, président de l'UEFA, mesdames, messieurs.
This is a completely open competition.
Il s'agit d'une compétition totalement ouverte. Elle s'adresse à davantage de petits pays et de pays de taille moyenne. Il est exact que la France y aura une place supplémentaire. Nous sommes donc tous heureux.
So we are all happy.
Mais bien sûr, nous sommes tous heureux. Alors, juste quelques chiffres, 36 équipes au lieu de 32, heureux élus aujourd'hui. Un mini-championnat de 8 journées où elles pourront toutes potentiellement s'affronter. Vous me corrigez si je me trompe. Étienne, finit donc le système encore en vigueur aujourd'hui où des poules de 4 clubs permettent aux deux meilleurs de se qualifier pour le tour suivant. Allez, on fait une première pause. C'est à peu près comme ça que ça va se passer ?
Oui, c'est comme ça. Alors, on ne peut pas que regretter qu'il y ait 36 équipes au lieu de 32. Ça veut dire qu'il y a quand même plus d'ouverture à des petits pays qui auront la possibilité.
Vraiment ?
Oui, bien sûr, parce qu'il y a un système avec les champions qui aujourd'hui peuvent accéder à la compétition, ce qui était moins le cas par le passé. Donc il ne faut pas toujours tout critiquer. Ce qui est critiquable, c'est l'expansionnisme de cette compétition. C'est-à-dire que le projet initial, c'était qu'il y ait 10 matchs dans la phase initiale au lieu de 6 aujourd'hui. Ils se sont rendus compte que c'était un peu n'importe quoi. D'abord, ils avaient commencé à faire ce projet-là pour essayer de satisfaire les grands clubs qu'ils n'avaient pas fait la Super League. Ils ont quand même essayé de la faire. Donc aujourd'hui, que ce projet de Super League est un petit peu derrière nous, finalement, ils reviennent à des choses un tout petit peu plus raisonnables. 8 matchs dans la phase initiale et après, on passe au 8e de finale.
Alors, vous dites que ça va profiter aux petites nations, mais pourtant, les 4 places en plus. Alors, il y a par exemple la France qui pourrait qualifier, puisque le 5e,
ça peut sembler légitime quand oui. les quand les quatre grands pays ont quatre qualifiés directs, qu'on en ait trois, même si on n'est pas le meilleur championnat du monde.
Il y a deux places qui vont aller à l'équipe qui aura à la Ligue, en tout cas, oui, c'est ça, au pays qui aura fait la plus belle campagne. Bon, on peut imaginer donc que les Espagnols et les Anglais qualifieront un cinquième
non, c'est
candidat.
Pas aussi, c'est
si
pas
on
aussi...
était là sur cette saison, ce serait le cas.
C'est pas aussi simple que ça. Sur cette saison, ça aurait été en effet les Anglais, mais aussi les Néerlandais. Parce que donc, il y a un système de pondération, c'est-à-dire que vous gagnez des points, évidemment, en Ligue des Champions, mais vous en gagnez aussi en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence, et vous avez ensuite un système où vous divisez par le nombre de clubs qui participent. Donc, au contraire, c'est une possibilité supplémentaire, par exemple, qui est donnée à un pays comme la France. Sur cette saison, si Marseille avait été au bout en Ligue Europa Conférence, la France aurait été en capacité d'avoir cette quatrième place en Ligue des Champions. Donc, c'est un tout petit peu plus ouvert. Mais bien sûr, ça peut aussi revenir au grand pays.
Oui, bon, malgré tout, l'exemple qu'évoque Étienne, alors Pays-Bas, mais en règle générale, ce sont quand même les grandes nations, puisqu'ils ont le plus de représentants. C'est automatique, en fait. Vous avez plus de représentants, donc vous avez plus de chances d'aller potentiellement plus loin, et donc plus de chances d'avoir un représentant supplémentaire.
Cette saison, il y avait 5 clubs espagnols en Ligue des Champions. Les 4, plus le vainqueur
plus
de la
Ligue. Plus Villarreal, qui avait gagné la Ligue Europa. Vous avez rencontré Alexander Seferin, un entretien pour votre journal. L'équipe, il se défend. On appelle ça quand même une usine un peu à argent. Il y a plus de matchs.
Oui, une usine à gaz aussi, un petit
voilà,
peu quand même.
Voilà, hein, il faut étirer la compétition. On devait avoir 225 matchs au total, 100 de plus. Bon, c'est un petit peu moins, je crois, à l'arrivée. Mais qui dit plus de matchs, dit potentiellement plus d'affiches. Et qui dit plus d'affiches, dit des diffuseurs qui vont mettre plus d'argent.
Oui, l'UEFA est toujours tiraillée entre donc, la volonté de garder des compétitions historiques et puis la pression des grands clubs qui disent « nous, on veut avoir plus de matchs, donc plus de recettes dans nos stades et puis évidemment plus de recettes télévisées à partir du moment où vous avez plus de matchs ». Donc c'est comme ça que la Ligue des Champions évolue au fil du temps pour aller vers une compétition où et évidemment il y a de plus en plus de grandes équipes, de grands pays donc, qui sont outrageusement représentés. Alors certains considèrent que c'est le sens de l'histoire, mais c'est toujours compliqué quand on est le président de l'UEFA d'essayer de concilier les deux.
Après, c'est vrai que, pardon, juste sportivement, là où c'est choquant, déjà, bon, à la base, on sait que la Ligue des Champions, il n'y a pas que des champions. Loin de là, un quatrième peut être en Champions. Mais au moment où nous parlons, les deux premiers de chaque poule, donc en gros, la 16e meilleure équipe, hein, puisque vous prenez la deuxième moins bonne des équipes, peut être potentiellement vainqueur de la Ligue des Champions. Dans le système qui arrivera à partir de 2024, le 24e peut gagner la Ligue des Champions.
Oui, parce qu'on rappelle qu'après ce mini-championnat de où vous rencontrez 8 équipes différentes, il y aura le classement du 1er au 8e directement qualifié pour la suite. Et ensuite, du 9e au 24e, on repart pour une confrontation en aller-retour.
Oui, c'est ça, c'est des barrages, une sorte de 16e de finale, pour simplifier, pour ensuite affronter les premiers, enfin ceux qui étaient du 1er au 8e. Donc le 24e, potentiellement, peut gagner la Ligue des Champions. Alors on va me dire, bah, c'est bien parce que ça permet aux plus petits, entre guillemets, d'avoir plus de chance, peut-être. Mais au final, est-ce qu'on nivelle pas par le bas, entre quelque sorte, au niveau de la Champions ?
Question technique, est-ce que il y aura des clubs qui seront reversés dans d'autres compétitions ou comment ça se passe ?
Oui, ce système-là existera toujours.
Les éliminer des places 9
voilà,
à 24.
C'est ça, voilà.
Mais bon,
parce que les places 25 à 36, ça, ils quittent la compétition.
C'est vrai que la Ligue des Champions, elle fonctionne très bien aujourd'hui et qu'on ne voyait pas de raison particulière de la modifier de manière radicale. Oui. Maintenant, la première phase, la phase de groupe, on le dit parfois aussi, au bout de 2 ou 3 matchs, bah, vous savez un petit peu quelles sont les deux équipes qui vont sortir de la poule. Parce qu'il y a toujours 2 grosses équipes et 2 plus petites, et que si elles font la différence dans les 2 ou 3 premiers matchs, bah finalement, les derniers matchs ne servent plus à grand-chose. Donc, pas non plus toujours tout caricaturer. Non. On peut faire des petites évolutions, même si celle-là est une évolution relativement importante.
Après, je me souviens, et rappelez-vous, au début, au milieu des années 2000, l'UEFA avait tenté une évolution comme ça, avec 2 phases de poule.
Une catastrophe.
Cette fameuse deuxième phase de poule qui était une horreur, pour ensuite aller directement en quart. Et pour le coup, l'UEFA était revenue à son idée initiale, en tout cas, était revenue à une idée, celle que l'on connaît aujourd'hui. Donc on verra ce que ça donnera. Pour le coup, donnons-lui cette chance, malgré tout, à cette formule, et on verra peut-être 3 ans après, l'UEFA dira « on va finalement changer et revenir à un truc plus normal ».
Vous avez ressenti quoi pour conclure du côté de Vienne, en dehors d'Alexander Seferin, qui promeut cette nouvelle formule ? Il y a une adhésion totale ?
Oui, il y a eu des négociations farouches entre les uns et les autres pour arriver à ce résultat-là. Donc le résultat est un petit peu moins grave qu'il était initialement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était 10 matchs dans la phase initiale qui était prévue. Aujourd'hui, on est revenu à 8.
Dans un calendrier déjà surchargé.
Exactement, c'est un tout petit peu plus raisonnable. Et puis Alexander Seferin, il a promis qu'il était encore en mesure, à un moment donné, de punir les trois derniers donc, qui tentent encore de monter la Super League, le Barça, la Juve et le Real. Et qu'en attendant que les procédures se terminent, lui, il réfléchissait toujours donc, à les sanctionner, pourquoi pas les punir. Et même, il était prêt à les exclure de la Ligue des Champions.
Allez, on suivra ça de près. On l'a dit, horizon 2024-2025. On a encore le temps de profiter de l'actuelle Ligue des Champions et de son hymne. Merci, Madame Ménard. Merci, Monsieur Guérin. On se retrouve demain pour le Café des Sports avec les habitués, bien sûr.
Ici l'Europe, Dominique Bayard.
Nous recevons le vice-président de la Commission européenne, le Slovaque Maroš Šefčovič.